Jeudi Saint, c'est une journée qui est vraiment très riche. Notre Seigneur va instituer la Sainte Eucharistie, le Saint Sacrifice de la Messe à la dernière scène. Il va instituer aussi le sacrement de l'ordre, quand notre Seigneur dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est notre Seigneur qui institue le sacrement de l'ordre. C'est aussi la passion qui commence avec l'agonie au Jardin des Oliviers. On pourrait insister sur chacune de ces parties, mais je voudrais vous parler plus particulièrement du discours de notre Seigneur après la scène. Après la scène, notre Seigneur va se diriger avec ses apôtres vers le lieu, vers le jardin des Oliviers, vers Gethsémani, et notre Seigneur va donner ce qui est comme son testament, peut-être le plus beau discours de notre Seigneur, en tout cas certainement le discours le plus profond de notre Seigneur sur la vie spirituelle. Et notre Seigneur va revenir comme en boucle, comme une contemplation sur notre vie d'union avec lui, qui sera en fait le grand fruit de sa passion. Et justement notre Seigneur, au début de sa passion, bien tient à élever un peu les esprits de ses apôtres pour que plus tard, il sache ne pas s'arrêter seulement à l'aspect physique de la passion, donc les douleurs physiques de notre Seigneur, bien sûr. L'Église nous demande de les contempler. Notre Seigneur demandait à ses apôtres de les connaître, de les contempler. Mais notre Seigneur veut les élever plus haut à l'aspect spirituel, l'aspect surnaturel de sa passion. Alors, c'est un très long discours. Autrefois, du moins dans l'ordre des frères prêcheurs, on le lisait. On lisait le soir, en fait. Bon, après, depuis qu'il y a eu des changements liturgiques de la Semaine Sainte, ce n'est plus le cas. Donc, c'est un discours qui est assez long, qui équivaut environ à la longueur du récit de la Passion, du chapitre 13, verset 31 de Saint Jean, jusqu'au chapitre 17 inclus. Alors, on va simplement lire les passages les plus importants et puis le commenter, essayer de le goûter. La première partie va se passer dans le cénacle, donc juste après la dernière scène, et ensuite notre Seigneur va se lever, on verra, et va partir vers le jardin des Oliviers. Alors lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. » Alors, notre Seigneur ici veut d'emblée en fait élever le regard des apôtres en disant que sa passion sera bien sûr une humiliation d'un point de vue extérieur, mais ce sera surtout une glorification. Et c'est là quelque chose qui est vraiment très très important à comprendre. Le bon Dieu aime notre Seigneur bien plus que tous les autres êtres. Notre Seigneur est le Fils bien-aimé du Père, comme ça a été dit juste au moment du baptême de notre Seigneur. Il est le premier-né de toutes les créatures. Et pourtant, ce même Fils bien-aimé, Dieu lui ordonne de mourir pour nous, et de mourir de la plus horrible des morts, qui est la mort de la croix. Et étant donné que notre Seigneur avait une sensibilité exceptionnelle, il souffrira plus qu'aucun autre homme. On pourrait penser qu'il y a là une sorte de contradiction. On peut se demander pourquoi est-ce que Dieu, alors qu'il aime autant son Fils, qu'il l'aime plus que tout, que toute autre chose, qu'il aime infiniment, pourquoi est-ce que Dieu lui réserve la plus grande part de souffrance? Pour nous, on aurait plutôt tendance à dire que bon, puisque le Père aime notre Seigneur, il va lui épargner toute souffrance. C'est la manière dont on raisonnerait nous. Et pourtant, non. Dieu a voulu que notre Seigneur souffre la plus grande des souffrances parce que il veut le glorifier. Parce que, eh bien, Dieu veut une victoire pour notre Seigneur. La passion, c'est avant tout, c'est une victoire. Et en fait, chacune de nos souffrances à nous aussi, chacune de nos croix, c'est un peu une victoire. Dieu est un peu comme un père qui est plein d'ambition d'une certaine manière pour ses enfants. Vous savez, quand quand un père aime vraiment ses enfants, même un père humain, ben, il désire pour eux un grand avenir et par conséquent, ben, il va les pousser à se dépasser d'une certaine manière dans leurs études. Il va les pousser à étudier alors qu'ils n'ont pas du tout envie. Il va être toujours derrière eux pour les stimuler alors que pourtant ses enfants auraient envie de tout sauf de cela. Et pourtant, eh bien, puisque le père aime ses enfants, eh bien, il va le faire souffrir d'une certaine manière, bien pour que plus tard ils aient une vie réussie selon le monde. Et alors qu'au contraire, souvent on voit ça dans le monde, les parents qui n'aiment pas beaucoup leurs enfants, bon, ils leur laissent une vie de plaisir, en fait, une vie de mollesse, voilà. Pas devant la télévision, et puis laisse-moi tranquille, parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants. On a ce contraste qui existe déjà en fait humainement, et en fait ce n'est qu'un reflet très lointain bien de ce que le bon Dieu qui est notre Père désire avant tout pour notre Seigneur et pour chacun d'entre nous. Il nous associe à la souffrance pour que nous vainquions bien nous-mêmes d'abord, enfin ça c'est pas le cas pour notre Seigneur bien sûr, mais pour nous-mêmes, que nous vainquions le péché en nous. Et que nous vainquions également le démon. Notre Seigneur va vaincre le démon sur la croix. Et que nous vainquions le monde. Dieu veut nous couronner, nous donner une couronne de victoire. Et avant tout à son Fils. Et c'est pourquoi, bien, cette passion de notre Seigneur est, d'un point de vue spirituel, c'est une grande victoire. Alors que d'un point de vue humain, c'est une défaite. Autrefois, bon, dans l'Église primitive, on a souvent ces représentations du Christ glorieux en croix. Donc le Christ roi, en fait, il a une couronne, et puis avec une tunique royale qui est en croix. C'était pour insister sur cet aspect-là, de l'aspect spirituel de la victoire de notre Seigneur. Alors notre Seigneur continue. Mes petits enfants, vous voyez la tendresse de notre Seigneur pour ses apôtres, bon, c'est vraiment son testament. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour un peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs qu'ils ne pouvaient venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Alors notre Seigneur est triste en fait de se séparer de ses apôtres. Il y a aussi cet aspect humain qui était vraiment chez notre Seigneur porté à sa plus grande perfection. Notre Seigneur a même pleuré trois fois, vous savez, il a pleuré sur Lazare, il a pleuré sur sa patrie qui est Jérusalem, il a pleuré enfin au jardin des Oliviers. Il avait vraiment ces sentiments très délicats. Alors il est triste de quitter ses apôtres et il leur annonce un petit peu à l'avance pour les préparer d'une certaine manière. Et on verra un tout petit peu plus loin que notre Seigneur insiste sur le fait que son départ en fait ne sera que pour un temps, puisque tout le but de sa passion, c'est de réunir ses apôtres à lui. Ce sera un tout petit peu plus tard. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est le grand commandement sur lequel notre Seigneur va insister. Il va revenir comme en boucle sur ce grand commandement, l'amour fraternel. Alors il le donne une première fois ici, d'une manière plus brève, et on verra qu'il va le développer plus tard. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Puisque Dieu est un père, il désire que tous ses enfants s'aiment les uns les autres. Et surtout on verra que puisqu'on est unis à notre Seigneur, et que notre Seigneur est mort par amour pour nous, il convient que nous aussi nous aimions les uns les autres comme notre Seigneur et à nous aimer, puisque nous sommes unis à lui. C'est le grand fruit de la passion. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur veut ici même que cette charité soit le signe caractéristique de notre union à notre Seigneur. La charité fraternelle, les uns avec les autres, c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait s'examiner pendant ce temps de la passion. Notre Seigneur a tant fait pour nous. Est-ce que nous, pour notre prochain, nous cherchons à lui rendre service, que nous cherchons à l'aimer véritablement? Notre Seigneur nous a aimés pas seulement en parole, parce que dire aux gens qu'on les apprécie ou les féliciter ou quelque chose comme ça, bien c'est facile. Mais lorsqu'il s'agit de se donner de la peine pour notre prochain, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. Quand on a un petit peu de mal, il faut contempler notre Seigneur. Notre Seigneur, eh bien lui, il ne nous a pas aimés pour rire. Un jour, notre Seigneur apparaissait, c'est à la bienheureuse Angèle, si je ne me trompe pas, la bienheureuse Angèle, et il se présentait à elle tout ensanglanté, en croix, avec toutes ces douleurs qu'elle voyait. Et notre Seigneur lui a dit ces quelques mots, « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Effectivement, ce n'est pas pour rire que notre Seigneur nous a aimés. Et est-ce que nous-mêmes, notre amour pour Dieu, pour notre prochain, ne serait pas trop léger, d'une certaine manière? Facilement, on vit notre vie chrétienne d'une manière très monotone. Évidemment, on aime le bon Dieu, on cherche à le prier, mais est-ce que vraiment nous donnons à notre vie spirituelle tout le sérieux que cela mériterait? Est-ce que ce n'est pas un peu d'une manière trop légère, eh bien, qu'on vit notre vie d'union avec notre Seigneur? Il faut savoir que chaque instant, nous avons des grâces actuelles qui nous aident, qui nous permettent en fait de faire le bien, tout simplement, de nous unir toujours davantage à notre Seigneur par une vie de charité. Et ces grâces actuelles que nous recevons à chaque instant, elles ont été méritées par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et est-ce qu'on y pense assez? Donc notre Seigneur nous demande de l'aimer et puis de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Il est le grand modèle. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où allez-vous ? » Jésus répondit, « Où je vais, tu ne peux me suivre à présent, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je vous suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour vous. » On voit un peu la présomption de Saint-Pierre qui est très vif et qui ne pense qu'à ses sentiments pour l'instant. Les choses sont très faciles. Il vient d'avoir cette dernière scène avec notre Seigneur. Alors c'est très facile de dire, « Seigneur, je vous donnerai ma vie. » Mais notre Seigneur lui répond, Jésus lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. » Là, notre Seigneur bien, cherche à montrer à Saint-Pierre qu'en fait, la vie spirituelle, ce n'est pas une affaire un peu comme de sentiments ou de sentiments humains. C'est un peu ça qui portait Saint-Pierre à être si ardent, c'est parce qu'il avait lui-même une nature très ardente, en fait. Et notre Seigneur lui dit qu'en fait, lui indique indirectement, Saint-Pierre le comprendra plus tard, qu'en fait la véritable force, elle vient de notre Seigneur, elle vient de la grâce. Ce n'est pas en nous-mêmes que nous devons nous appuyer si nous voulons vraiment aimer notre Seigneur, c'est dans sa grâce. Et là, ici, Saint-Pierre n'avait pas compris, et à cause de cela, notre Seigneur lui prédit son triple reniement, à cause de cette présomption qu'il allait avoir. Et d'ailleurs, au Jardin des Oliviers, il va dormir, il ne va pas prier, notre Seigneur va lui dire, priez afin de ne pas entrer dans la tentation, de ne pas succomber à la tentation, en fait. Et comme Saint-Pierre, il ne compte que sur lui-même, il ne pense pas avoir besoin de la prière, il ne priera pas, il va s'endormir. Et à cause de cela, eh bien, il va renier son maître, parce qu'il n'aura pas prié pour recevoir les grâces nécessaires. En fait. Il n'aura pas encore compris. Il faudrait attendre la Pentecôte pour que Saint-Pierre comprenne. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Car je vais vous y préparer une place. Ici, notre Seigneur cherche un peu à mitiger la douleur de ses apôtres en disant, et puis la nôtre aussi, en pensant que notre Seigneur, bon, on ne le sent pas. Notre Seigneur n'est pas présent sensiblement, peut-on dire. Il est présent par la Sainte Eucharistie, mais on ne le voit pas. Et notre Seigneur va mitiger la souffrance de ses apôtres en disant qu'il ne va simplement que leur préparer une place pour qu'ils le rejoignent. Qui le rejoignent bientôt, en fait, parce que une vie humaine, ce n'est rien par rapport à l'éternité. Et notre Seigneur, justement, il montre aussi son désir, il vient d'être lui-même uni à nous. Il y a dans le livre de la sagesse, si je ne me trompe pas, un beau verset où il est dit « Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes ». C'est vrai, notre Seigneur fait ses délices d'être parmi nous, puisque notre Seigneur est justement cette sagesse personnifiée dans le livre de la sagesse. Il fait ses délices de vivre parmi nous déjà dans le Saint-Sacrement, dans la Sainte Eucharistie, de venir dans les âmes en état de grâce pour les unir toujours davantage à lui. Mais surtout, il désire qu'on le rejoigne au ciel. Il a vraiment cet amour envers ses enfants, comme un père qui désire que ses enfants le rejoignent. Il désire que nous le rejoignions, au ciel. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là où je vais, vous en savez le chemin. Notre Seigneur va ici annoncer en fait trois grands fruits de sa passion. Dans ce chapitre, on est dans le chapitre 14e. Le premier fruit, c'est la place que notre Seigneur prépare pour chacun d'entre nous, qu'il a mérité en fait par son sang pour nous, une place au ciel. La deuxième chose qu'il va annoncer, c'est la puissance de la prière. Tout ce qu'on demandera au Père au nom de notre Seigneur qui est mort pour nous, eh bien, nous sera accordé. Parce que notre Seigneur a surabondamment obtenu pour nous toutes les grâces nécessaires pour notre salut, d'une manière totalement débordante. Et puis la troisième chose que notre Seigneur va obtenir par sa passion, c'est l'envoi du Saint-Esprit qu'il annonce ici. D'abord, il prépare une place. Mais les apôtres, en fait, qui sont encore bien charnels, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, comprennent les choses d'une manière qui est trop humaine. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où vous allez. Comment donc en saurions-nous le chemin ?» Saint Thomas et puis tous les apôtres, en fait, pensent que notre Seigneur va partir de manière physique comme on part pour un voyage. Alors, les apôtres comprennent les choses un peu comme les enfants, d'une manière trop basse, d'une certaine manière. Alors, notre Seigneur va les élever, mais très doucement. Notre Seigneur est très pédagogue, et en fait, pendant tout ce grand discours, il va les élever petit à petit, en revenant sur les mêmes idées, en les développant progressivement. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Tout de suite, notre Seigneur élève un peu les regards, parce que s'il est le chemin, c'est forcément d'une manière symbolique, c'est une parabole. La vérité, et puis la vie, il est la vraie vie. « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc là, notre Seigneur montre en fait où il va. Il va au Père, il va au ciel. En fait. Et pour le rejoindre au ciel, il faut passer par notre Seigneur. Notre Seigneur qui est l'unique intermédiaire. C'est ce qu'il veut montrer à ses apôtres. Puisque bien par sa passion qu'il va souffrir bientôt, c'est lui qui va obtenir en fait, tous les secours dont nous avons besoin pour être sauvés. Et comme le dira Saint-Pierre après la Pentecôte, quand il aura compris, bien, il n'est pas donné aux hommes d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut passer par recevoir les fruits de sa passion. Je suis le chemin. Notre Seigneur est le chemin par où nous allons à Dieu. La vérité, et puis enfin la vie. La vie qui nous donne la force d'aller à son Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon Père. Dès à présent, vous le connaissez si vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu? Philippe, celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Comment peux-tu dire, montrez-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait lui-même ses œuvres. Croyez sur ma parole que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Croyez-le du moins à cause de mes œuvres. C'est donc ici le mystère de la Sainte Trinité que notre Seigneur va commencer à révéler. Il y a puis eu déjà au baptême de notre Seigneur la voix du Père qui a été entendue, puis le Saint-Esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe, mais a priori les apôtres n'ont pas connu en fait ce mystère de la Sainte Trinité à ce moment-là. C'était encore pour eux un peu mystérieux. Cette trinité de personnes dans l'unité d'une seule substance, en fait, bon, ils n'en ont pas compris à ce moment-là. Alors c'est ici que notre Seigneur va commencer à leur dévoiler, en fait, ce qui est sa vie intime, d'une certaine manière. Notre Seigneur va vouloir leur montrer l'aspect comme le plus profond de la vie divine, qui est la vie dans la Sainte Trinité. Et parce que justement, cette vie de la Sainte Trinité, cet amour du Père pour le Fils, du Fils pour le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, c'est en fait le grand modèle, la source, et puis le modèle de notre propre charité envers Dieu. Notre charité envers Dieu, notre amour de Dieu, c'est une participation, très lointaine bien sûr, mais une participation à cette vie intime de la Sainte Trinité. Et c'est à cause de ça que notre Seigneur commence à le révéler ici. Donc notre Seigneur est si près du Père que celui qui a vu notre Seigneur voit aussi le Père. Et puis il dira plus loin que celui qui rejette notre Seigneur rejette aussi le Père, parce qu'ils ne peuvent pas être dissociés les uns les autres. Ça montre bien qu'il ne s'agit pas seulement de deux personnes distinctes comme deux hommes distincts, mais qui sont bien dans une unité d'une seule substance. Parce que celui qui voit notre Seigneur, on ne dira pas celui qui voit, je sais pas, un Père humain voit aussi le Fils. Bon, ça ne dirait pas, ça n'a rien à voir. Mais pour notre Seigneur, oui, parce qu'ils ne sont qu'une seule substance, Père, Fils et Saint-Esprit. Ensuite, notre Seigneur va montrer l'efficacité de la prière obtenue par sa passion. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Puisque notre Seigneur va remonter auprès du Père comme notre intercesseur et notre avocat. C'est Saint Jean qui le dit à un autre endroit de ses épîtres. Notre Seigneur qui intercède sans cesse pour nous. Et à cause de cela, eh bien, notre Seigneur obtient pour nous tout ce que nous lui demandons. Alors ici, c'est évidemment important de faire un petit commentaire. Parce que on pourrait se dire, oui, mais je n'ai pas toujours obtenu les grâces, surtout les bienfaits que je demandais au bon Dieu. Des fois, on demande certaines choses, certaines faveurs, et puis on ne les reçoit pas. On pourrait se demander, ben dans ce cas-là, pourquoi est-ce que notre Seigneur dit que tout ce qu'on demandera au Père, en son nom, on le recevra. Bien, Saint Augustin précise que il faut, quand on dit « demander en son nom », cela veut dire évidemment demander d'une manière unie à la volonté de notre Seigneur. Il faut être uni à la volonté de notre Seigneur. Notre Seigneur, des fois, ne nous exauce pas parce que ce qu'on demande, eh bien, n'est pas expédient, ne sera pas utile pour notre salut, pour ce que notre Seigneur désire pour nous. Souvent, on demande des bienfaits matériels ou encore certaines facilités, le fait d'être délivré d'une tentation, le fait de d'acquérir plus facilement telle ou telle vertu, ou ainsi de suite. Et on n'est pas exaucé parce que, eh bien, notre Seigneur sait que, eh bien, enfin, il est bon, par exemple, qu'on n'ait pas tel bien matériel pour exaucer notre patience, pour ne pas s'attacher à ce monde. Il est bon aussi que nous soyons en but à la tentation, parce que ça nous oblige, eh bien, à produire des actes plus fervents d'amour de Dieu pour ne pas succomber, et ainsi de suite. Et notre Seigneur sait que tout ce qu'on demande n'est pas forcément bon. Mais tout ce qu'on demandera qui est vraiment utile à notre vie spirituelle, que notre Seigneur nous l'accorde. Il ne nous l'accorde pas forcément d'un seul coup, bien sûr, parce que il est naturel pour nous qui sommes des hommes de grandir dans la vie spirituelle petit à petit et comme pas à pas. Pour les anges, les anges ont obtenu, ont acquiescé à la grâce d'un seul coup. En un seul acte, ils ont été sauvés. Ils n'ont pas eu à vivre une longue vie avant de rentrer au ciel, ou au contraire, pour les démons, il y en a précipité en enfer. Il n'y a eu qu'un seul acte à poser, soit l'acceptation de notre Seigneur, du plan de Dieu sur eux, ou encore de refus pour le cas des démons, en un seul acte. Parce que pour les anges, c'est normal, leur puissance, ce sont des purs esprits, et ils se décident entièrement par un seul acte. Pour nous qui sommes des hommes, il y a le même que les enfants. Normal qu'un enfant grandisse, il est d'abord un bébé, puis il grandit lentement. Si en un seul jour il devenait un adulte, on dirait qu'il y a un petit problème. Il est normal pour nous de grandir petit à petit, que ce soit dans la vie naturelle et puis aussi dans la vie spirituelle. Des fois, quand on n'est pas exaucé tout de suite, c'est qu'en fait, notre Seigneur nous exauce, effectivement, mais progressivement. C'est normal qu'on progresse. Mais ceci étant dit, ceci étant précisé, c'est vrai que tout ce qu'on demande au nom de notre Seigneur et d'une manière vraiment ordonnée, avec humilité, avec persévérance, avec confiance, eh bien tout cela nous est accordé. C'est quand même quelque chose de très consolant de penser cela, que chaque instant, eh bien Dieu nous entend, Dieu nous écoute, si on peut le prier n'importe quand. Et puis, il nous exauce. Dieu entend notre prière. Et cela, c'est le deuxième grand fruit de sa passion. Puisque c'est bien sûr par sa passion, par les mérites surabondants de son sacrifice, le sacrifice de la croix, qu'il peut accorder ensuite tout ce qu'on demande. Il a constitué une sorte un trésor inépuisable. On peut y puiser à pleine main. Et puis surtout, le don du Saint-Esprit, le don du Paraclet qu'il va envoyer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous le donnera un autre Consolateur, parce qu'il demeure toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, afin que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure au milieu de vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Alors, c'est un passage aussi très important. Après avoir parlé de deux dons créés, d'une certaine manière, le don qui est le salut éternel et puis l'efficacité de la prière, donc ce sont des dons qui sont créés. Il y a enfin le don incréé, donc Dieu lui-même qui se donne à nous. C'est le plus grand des dons, le plus mystérieux en même temps, cette inhabitation du Saint-Esprit dans l'âme des justes et qui est envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est, étant donné qu'il a souffert sa passion et qu'il est remonté auprès de Dieu, il peut maintenant envoyer son esprit sur tous les justes. Et c'est là où on a la troisième personne de la Sainte Trinité. On l'a vu un tout petit peu plus haut que notre Seigneur a dit, celui qui me voit, voit aussi mon Père. Et là, ici, notre Seigneur dit qu'il va envoyer son esprit. Quand il dit son esprit, il montre bien cette union très intime qu'il a avec le Saint-Esprit, puisqu'on parle bien de, quand on dit son esprit, en fait, c'est son pour nous-mêmes, quand on parle, c'est notre âme, en fait. On a forcément une union substantielle avec notre propre âme. L'âme est même une partie de nous-mêmes. Donc, quand notre Seigneur dit qu'il enverra son esprit, ça montre bien qu'il y a une unité, cette unité de substance avec le Saint-Esprit. Et puis, le Père aussi enverra son esprit, qui montre bien que c'est le Père et le Fils, que le Saint-Esprit procède et du Père et du Fils. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ici, après avoir montré ces trois grands dons que notre Seigneur accorde, il nous dit quels sont nos devoirs. Celui qui observe mes commandements, ou celui qui garde mes commandements. C'est important bien de bien garder cet équilibre. Il y a à la fois cet amour de Dieu en nous, qui est l'amour spirituel d'une certaine manière dans tous nos actes, mais il faut que cela se concrétise, se manifeste par l'observation des commandements. Et notre Seigneur insistera plus loin sur la nécessité de porter du bon fruit. Vous connaissez peut-être cette erreur qui s'appelle le quiétisme. Le quiétisme, donc c'est une hérésie qui consistait à penser que si, du moment qu'on a une sorte de bonne intention, une sorte d'amour, bon, d'ailleurs un peu sensible, de Dieu, eh bien après on est dispensé des bonnes œuvres. Et bon, ça tombait vraiment dans tous les... Dans les pires des ordres, en fait, de penser que l'amour de notre Seigneur, parce que c'est en fait une sorte de sentimentalisme, en fait, qui pourrait subsister sans qu'on observe les commandements. Alors, notre Seigneur cherche à bien faire l'équilibre entre ces deux aspects, l'inhabitation du Saint-Esprit, et donc cette union très intime, cet amour qu'on doit avoir pour Dieu, qui est l'aspect le plus profond de notre vie spirituelle, bien sûr, mais en même temps, la nécessité d'observer les commandements. Pour les pharisiens, c'était le contraire. Pour les pharisiens, il ne s'agissait que d'observer les commandements. Et en fait, l'amour de Dieu, il passait totalement à côté. C'était une religion totalement desséchée, peut-on dire, que cette conception de la religion par les pharisiens. Donc, c'est pourquoi notre Seigneur, c'est important, il nous montre bien cet équilibre. Si on aime vraiment Dieu, eh bien, alors on cherche à porter du bon fruit, à lui faire plaisir. Bon, de même qu'un enfant qui aime vraiment ses parents, bon, cherche à leur faire plaisir, bon, déjà garde leurs commandements, donc leur obéit. C'est sûr qu'un enfant qui dirait à sa maman « je t'aime maman », mais qui après lui désobéit sans arrêt, bon, la maman aurait tendance à penser que ça manque un peu de sincérité. Ah, forcément. Eh bien, c'est la même chose d'un point de vue spirituel. Dieu est notre Père. Si on veut vraiment lui plaire, si on l'aime vraiment, il faut garder ses commandements. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que vous vouliez vous manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc Judas, non pas l'Iscariote justement, juste un petit peu plus haut, notre Seigneur avait dit qu'il ne laissera pas orphelin et que l'Esprit viendrait en eux parce que lui il vit et que eux aussi, les apôtres, vivent. Vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez. En fait, parce que cette présence de notre Seigneur montre ici que sa présence est d'ordre tout spirituel, que sa présence n'est pas une présence corporelle. Là aussi, les apôtres avaient un peu de mal à comprendre cela, à s'élever à ce sens qui est tout spirituel, cette présence invisible de Dieu en nous. Saint Thomas dit que le Saint-Esprit habite en nous, donc de manière invisible, par mode de connaissance et d'amour. C'est-à-dire que Dieu est présent à toute sa création de trois manières. Déjà, en tant que Dieu connaît toutes choses, donc il est présent, on peut dire, à son regard. Ensuite, parce que Dieu est tout-puissant et qu'il maîtrise toutes choses, donc présent à sa puissance. Et puis enfin, que Dieu est présent en toutes choses parce qu'il soutient toutes choses en l'être. Ce qu'on appelle la conservation des créatures. Si Dieu arrêtait de penser, de s'occuper de sa création disparaîtrait aussitôt dans le néant, parce que la création n'a rien par elle-même, elle subsiste par Dieu. Donc ça, c'est la présence de Dieu en toutes choses. Il y a une autre présence de Dieu qui est très spéciale, qui est la présence de Dieu en notre Seigneur. La présence qui est l'union hypostasique dans l'unité d'une seule personne. Et puis il y a une présence intermédiaire de Dieu, et c'est dans l'âme des justes, c'est-à-dire par mode de connaissance et d'amour. Et bon, ça pourrait paraître peut-être un peu sec comme expression, mais en fait c'est très profond. C'est-à-dire que Dieu nous donne de l'aimer comme lui-même s'aime. Il nous fait participer au propre amour qui est dans le sein de la Sainte Trinité. Il nous donne de le connaître également comme lui-même se connaît. Donc c'est déjà la vertu de foi qui est une certaine participation donc à cette connaissance que Dieu a lui-même. Et cette foi va s'épanouir, bien sûr, dans la vision béatifiée. Là, on connaîtra après encore davantage Dieu comme Dieu se connaît lui-même. Mais en fait, il y a là cet aspect très profond de la vie de la grâce. Et je crois que c'est Saint Marc qui fait remarquer que pour connaître la grâce, en fait, c'est ce don du Saint-Esprit en nous qui accompagne la grâce, en fait, il faudrait voir la Sainte Trinité face à face. Il n'y a que les élus qui peuvent le comprendre. Parce qu'en fait, la grâce, c'est déjà un début de la vie du ciel, qui est comme un germe qui commence déjà ici-bas. C'est donc quelque chose de vraiment très profond, quelque chose d'invisible, bien sûr, qui n'est pas corporel. Notre Seigneur insiste vis-à-vis des apôtres, c'est pas quelque chose de visible et donc de très inférieur. C'est une présence toute spirituelle et invisible, parce que Dieu est esprit, mais très profonde. Et c'est important, bien, d'y penser régulièrement. Quand on lit les épîtres de Saint Paul, on voit vraiment que toutes ces exhortations morales, en fait, tournent autour de ce thème de l'Esprit Saint qui habite en nous. Par exemple, quand il dit qu'il faut se garder pur, c'est parce que nous sommes membres du Saint-Esprit, temple du Saint-Esprit, et par conséquent, il faut se garder pur. Ou par exemple, quand il dit qu'il faut pratiquer des bonnes œuvres, c'est parce que nous sommes devenus des membres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de même que notre Seigneur Jésus-Christ agit en bien, puisque nous sommes ses membres, c'est comme ses intermédiaires, on doit aussi agir en bien. Et tout ça, en fait, c'est vraiment un aspect de notre vie surnaturelle sur lequel il faut vraiment méditer, il faut toujours en être plus conscient, parce que bon, on aurait tendance à vivre d'une manière trop superficielle notre vie surnaturelle. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Notre Seigneur il a fait remarquer à ses apôtres ici que bon, s'ils ne comprennent pas tout, ce n'est pas trop grave parce qu'après il leur enverra son Esprit Saint le jour de la Pentecôte et à ce moment-là ils comprendront vraiment tout ce que notre Seigneur leur annonce. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. Ici notre Seigneur parle de la véritable paix qui est en fait la fin de cette inimitié qu'il y avait entre l'homme, entre l'humanité et Dieu. Saint Paul dira que nous naissons tous fils de la colère, fili iré, c'est-à-dire avec le péché originel qui nous rend ennemis de Dieu. Et notre Seigneur nous a donné la paix, non pas la paix du monde, parce que on sera en but aux persécutions. Notre Seigneur aussi l'annoncera dans ce même discours un petit peu plus loin, ce n'est pas cette paix-là dont parle notre Seigneur, mais d'une paix bien plus profonde et bien plus importante, la paix que nous avons avec Dieu. En fait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que, quand elles seront arrivées, vous croyiez. Je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde, c'est-à-dire le démon, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis selon le commandement que mon Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc, notre Seigneur part du Cénacle. Et il part volontairement. En fait, il va au jardin des Oliviers, là où il sait que Judas amènera la troupe des Juifs pour l'arrêter. Et c'est volontairement. Le prince de ce monde, le démon ne peut rien contre notre Seigneur, parce que notre Seigneur est Dieu. C'est donc volontairement que Dieu va donner sa vie. D'ailleurs, il avait annoncé plus tôt aux Juifs, personne ne me prend mon âme, c'est moi qui la dépose et c'est moi qui la reprends. Notre Seigneur est maître de sa propre vie, enfin de toute vie en fait, maître de la vie et de la mort comme Dieu, alors si une personne ne lui prend sa vie, c'est lui-même volontairement qui va aller au-devant de sa passion. Et donc là, notre Seigneur va se déplacer avec ses apôtres et en chemin, il va continuer ce discours après la scène. Et sans doute, au moment où notre Seigneur va parler, ils sont auprès d'un champ de vigne. Notre Seigneur en profite. « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure uni à la vigne, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est la fameuse parabole de la vigne et des sarments, qui est là aussi, qui est vraiment l'un des passages qui éclaire le plus notre vie surnaturelle. Notre Seigneur commence par dire qu'il est la vraie vigne. C'est évidemment une allusion à sa passion, qui aura bientôt lieu, et en fait à la dernière scène qui a lieu. Parce que notre Seigneur a versé son sang qui est signifié par le vin, c'est à cause de cela qu'à la messe, il a voulu que la matière soit le pain et puis également le vin, qui est le sang de notre Seigneur. Et puis aussi, il va verser son propre sang. C'est comme ça qu'il est la vraie vigne. Et mon Père est le vigneron, c'est-à-dire c'est la providence. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, c'est-à-dire c'est tous les fidèles, tous ceux qui sont unis à notre Seigneur, il l'émonde afin qu'il en porte davantage. Le Seigneur commence à montrer ici à ses apôtres que si lui-même doit aller au-devant de sa passion, ce qu'il vient d'annoncer plus haut, bien ses apôtres aussi devront porter leur propre croix. Le vigneron, le Père qui est le vigneron, émonde sa vigne, émonde ses sarments, c'est-à-dire que par la croix, il nous détache des biens de ce monde. Une vigne qui n'est pas émondée, ou la plupart des plants, un plant de tomate ou je ne sais quoi, ou une vigne, si on n'entretient pas, ça part dans tous les sens, et du coup, toute cette abondance de sarments vont empêcher la sève d'aller dans les fruits. Donc ce sera une vigne qui n'aura que très peu de fruits. C'est comme ça que le vigneron, pour pouvoir optimiser, on peut dire, sa vigne, va l'émonder de façon à ce que toutes les énergies de la vigne, d'une certaine manière, soient comme canalisées dans le raisin, dans le fruit. Et c'est un petit peu la même chose pour nous-mêmes. C'est-à-dire, on a notre vie naturelle, et si on n'est pas canalisé d'une certaine manière, si on n'est pas émondé par les souffrances qui nous détachent des biens de ce monde, eh bien, on part un peu dans tous les sens. On cherche les plaisirs un peu à droite, à gauche, d'une manière toute superficielle, et au lieu de tendre d'une manière toute simple et toute directe vers l'amour de Dieu, ben, on est distrait par les biens de ce monde, en fait. Et alors, c'est à cause de cela qu'on a besoin d'être émondé par la croix qui nous fait participer, en fait, déjà à la croix de notre Seigneur, et aussi, par conséquent, au fruit de la croix, donc qui est la vie éternelle. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure uni à la vigne, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc là, ici, notre Seigneur nous montre qu'on a besoin absolument de la grâce, de sa grâce à lui, de sa vie à lui, pour faire le moindre bien. C'est Saint Paul, dans un autre, dans une de ses épîtres, dit qu'on ne peut même pas prononcer correctement, bien sûr, le nom de notre Seigneur, prononcer le nom de Jésus d'une manière fructueuse, sans que l'Esprit Saint vienne nous inspire, sans que la grâce ne nous porte à cet acte qui est pourtant le plus simple et le plus facile qu'on puisse imaginer. Donc sans notre Seigneur, sans la grâce, tous nos efforts purement naturels ne servent de rien. Alors qu'au contraire, lorsqu'on est vraiment uni à notre Seigneur, eh bien, on porte beaucoup de fruits. Et on voit que Saint Pierre n'aura pas compris, en fait, cette parole de notre Seigneur, parce que quand viendra le moment de l'agonie au Jardin des Oliviers, où notre Seigneur lui demandera de prier, justement, pour demander cette grâce, pour demander cette vie de notre Seigneur, il y a Saint Pierre, comme on l'a dit, il ne va se confier qu'en lui-même, qu'en ses propres forces. Et il ne va pas prier. Il se dit qu'il n'en a pas besoin. Et c'est à cause de ça qu'il va trahir son maître trois fois, malgré sa belle ardeur, tout de suite après la scène. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Donc c'est donc la peine de l'enfer, si on est détaché de notre Seigneur. Et en fait, si on y pense bien, dans la peine de l'enfer, quand Dieu envoie un damné en enfer, il ne fait que sanctionner, que cavaliser d'une certaine manière le propre choix de ce pécheur. Souvent, quand on parle aux gens, les gens sont rebutés par la pensée que dans la religion catholique, on puisse parler de l'enfer. On dit Dieu n'est pas bon parce qu'il damne les pécheurs. Dieu devrait sauver tout le monde. Mais en fait, si on y pense bien, d'une certaine manière, ce n'est pas tant Dieu qui envoie le damné à l'enfer, c'est le damné qui lui-même a choisi l'enfer, puisque il a choisi de se séparer de la seule vie, en fait. Il a choisi de se séparer de Dieu. La peine principale de l'enfer, ce n'est pas la peine du feu, hein, c'est la peine du damné, qui est la séparation avec Dieu. C'est ça la peine principale de l'enfer. Et cette peine du damné, d'une certaine manière, le pécheur la commence déjà ici-bas. Parce que déjà ici-bas, il s'est séparé et tout à fait volontairement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ a versé tout son sang pour donner sa vie, pour donner ses grâces aux âmes, cette âme a rejeté notre Seigneur. Et forcément, il ne peut rien arriver d'autre que de voir cette âme se dessécher comme un sarment sans sève et qui se dessèche et qui serait envoyé dans le feu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà que notre Seigneur revient de nouveau sur cette parole. On peut tout recevoir. Et il cherche à montrer en même temps qu'on peut tout à fait éviter l'enfer, parce que tout ce qu'on demande, on le reçoit. Toutes les grâces qu'on a besoin pour se sauver, il suffit de les demander, Dieu l'accorde. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. C'est donc pour la gloire de Dieu, qu'on doit chercher à porter du fruit. Dans ce petit passage, en fait, il y a toute l'économie de la justification, comme le dira le Concile de Trente. Le Concile de Trente aura un passage qui est très, très précis et très éclairant, après l'hérésie de Luther, pour expliquer ce qu'est vraiment la justification. Et le Concile de Trente explique que la cause finale, c'est-à-dire le but de notre justification, c'est la gloire de Dieu, ce que notre Seigneur dit ici, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. La cause méritoire de la grâce, de la justification, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que notre Seigneur indique dans tout le discours, puis d'une manière un peu voilée en disant qu'il est la vigne, qui verse son sang. La cause qui est instrumental, c'est l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre Seigneur, c'est par son humanité que la grâce, d'une certaine manière, est préformée en lui avant de venir en nous. Notre Seigneur est la tête du corps mystique, et c'est lui qui est comme la source qui va nous transmettre toutes les grâces. Ce qu'il dit dans ses paroles de parabole de la vigne, il est la vigne qui nous donne la véritable vie, donc la sève qui nous permet de vivre. C'est donc une récapitulation de notre vie spirituelle. Et si on regarde justement, comme par contraste, l'hérésie de Luther sur la justification, ce que combat le Concile de Trente, c'était en fait une sorte de phariséisme. Pour Luther, l'homme n'était justifié que d'une manière purement, comme il disait, forensique, c'est-à-dire d'une manière purement extérieure. Donc l'homme ne devenait pas intimement juste, mais Dieu lui imputait extérieurement les mérites de notre Seigneur, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est comme s'il couvrait l'âme qui restait tout à fait pécheresse des mérites de notre Seigneur, façon à ce qu'il ne regarde pas le péché. Mais en fait, l'homme restait vraiment pécheur, et il ne portait pas intimement un véritable fruit. C'est ce qu'on appelle la justification purement juridique, forensique. Dieu n'impute pas le péché alors que la personne reste pécheur. Or, notre Seigneur cherche, à l'avance, on peut dire, réfute tout à fait cette diminution de la vie spirituelle en disant non, on vit de la vie même de notre Seigneur. Il est la vigne et la sève qui coule en nous, c'est la grâce même qui nous vient de notre Seigneur. C'est la vie même de notre Seigneur. Et puisque nous sommes tous membres du corps mystique, nous devons nous aimer les uns les autres. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Donc on voit que notre Seigneur reprend cette même parole qu'il avait dit plus loin, mais en l'approfondissant. Notre Seigneur revient sans arrêt sur les mêmes pensées, mais en chaque fois en rajoutant quelque chose, en approfondissant ces vérités qui sont si grandes. Si on doit s'aimer les uns les autres, c'est pour deux raisons. C'est parce que nous sommes membres les uns les autres, et de même que dans un corps, les membres les uns les autres se soutiennent. La main va travailler de façon à ce que la bouche puisse manger, et ainsi de suite. Et puis, si un seul des membres souffre, c'est tout le corps qui souffre, bien sûr. Donc, c'est cette union. Mais aussi parce que nous vivons de la vie de Dieu, et que Dieu est charité. C'est ce qui fait remarquer en continuant. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon Père, et comme je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc si on doit s'aimer les uns les autres et aimer Dieu, c'est parce que c'est une simple union à l'amour que notre Seigneur a pour son Père, en fait, et a pour chacun d'entre nous. Et il continue en montrant jusqu'où va son amour. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est jusque-là que va l'amour de notre Seigneur pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Un petit peu plus loin, un plus haut, plutôt, on avait vu que notre Seigneur avait dit à ses apôtres qu'il devait l'aimer comme lui-même les aimait. Et ici, il va préciser. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour de notre Seigneur pour chacun d'entre nous? Eh bien, c'est qu'il a donné sa vie pour ses amis, pour chacun d'entre nous. Et c'est Saint Paul, dans son épître aux Romains, qui fait ressortir ce contraste entre nous qui étions des pécheurs, donc qui étions les ennemis même de Dieu, et notre Seigneur, et Dieu est venu donner sa vie pour ceux qui l'offensaient, en fait, pour ceux déjà qui étaient ses créatures. Nous ne sommes absolument rien par rapport à Dieu. Nous sommes rien pour sa vie de Dieu. Et non seulement nous ne sommes rien parce que nous sommes des créatures, mais nous sommes des créatures qui l'avons offensé, qui sommes des pécheurs, qui étions ses ennemis. Et notre Seigneur, malgré cela, a donné sa vie pour nous. Et Saint Paul fait remarquer, à peine est-ce que les hommes arrivent à mourir pour un ami, notre Seigneur, lui, a voulu mourir pour des ennemis. Et Saint Paul continue en disant, il y a une plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés, que nous avons la grâce de notre Seigneur en nous, pour nous être certains de l'assistance de notre Seigneur, de sa grâce et de son salut. C'est quelque chose de, de très consolant en même temps quand on voit cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de penser que c'est la grande manifestation de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous. Voilà, bon, on pourrait encore continuer. Comme je vous ai dit, on ne peut pas tout dire. Si jamais vous voulez continuer à le lire, bon, dans la Sainte Écriture, je me suis arrêté au chapitre 15e, verset 17. Ça continue encore sur deux chapitres, donc n'hésitez pas à le lire. C'est vraiment un discours qui est magnifique.